Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Hulin, page 75, Daf Ein He. Bonne écoute et bon limoud.
Et reste à qui se répond à Rabbi Yochanan. Ta question serait bonne. Il s'agit d'un cas particulier, Bishrita Yevesta. Il s'agit d'un cas où, au moment où on a fait la Shrita de la mer, elle était littéralement sèche, c'est-à-dire que la shrita s'est faite sans qu'il y ait de sang qui s'écoule. Et, faut-il préciser, de l'eau que Rabbi Shimon, cette opinion n'est pas conforme à ce que pensait Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon pense que la shrita en tant que telle est un hercher pour rendre la viande qui a été l'objet de cette shrita susceptible de devenir impure sans autre préparation. La Gemara revient sur la braïta qu'on vient de citer. Mantana. Quel est le Tana qui enseigne Avar Benahar ou Shahar? Lorsqu'un Ben Pakua a traversé une rivière, il est devenu susceptible de le devenir impur. Alach le Betakvarot Nitma, et qu'ensuite, lorsqu'il est allé dans un cimetière, il est devenu effectivement impur. Autrement dit, comme Rashi l'explique, c'est-à-dire quel est le Tana qui considère qu'un animal, bien qu'il soit encore vivant, ce qui est le cas du Ben Pakua, peut éventuellement devenir impur en tant qu'aliment. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan répond, Rabbi Yossé Aglili, c'est l'opinion de Rabbi Yossé Aglili, de Tania. En effet, une braïta nous enseigne, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Yossé Aglili, Rabbi Shimon ben Elazar enseigne au nom de Rabbi Yossé Aglili, Metamet Umatochlin, un Ben Pakua peut devenir impur comme un aliment devient impur, à une condition, il doit avoir été préparé à cela, c'est-à-dire il faut qu'il soit rentré en contact avec l'un des sept liquides. Et comme l'explique Rashi, c'est-à-dire que de par sa naissance, il n'est pas automatiquement mourchar, il n'est pas préparé, parce qu'il est une entité distincte de celle de sa mère. Il en ressort donc que d'après Rabbi Yossi Aglili, il peut devenir impur de son vivant. Et la braïta continue, tandis que les sages ne sont pas d'accord avec Rabbi Yossé Aglili, ils disent qu'il est impossible qu'il ne devienne impur en tant qu'aliment parce qu'il est encore vivant. Et tout être vivant ne peut pas devenir impur au titre alimentaire, il ne peut pas être en même temps un aliment. Rashi ajoute qu'on voit que Rabbi Yossé Aglili ne pense pas comme les Rabbanan de notre Mishnah, qui pense que le Ben Pakua c'est comme un morceau de viande qui serait à part dans un panier, puisque Rabbi Yochanan pense que même les Chachamim qui sont en désaccord avec Rabbi Yossé Aglili, en ce qui concerne la possibilité pour un tel Ben Pakua de devenir impur, ils pensent malgré tout, comme les Chachamim de notre Mishnah, en ce qui concerne la Shrita, et cependant, bien qu'il n'ait pas besoin de Shrita, il ne peut pas devenir impur tant qu'il est vivant. Et la Gemara ajoute, Gazar Rabbi Yochanan le Tame. Rabbi Yochanan suit sa propre logique, c'est-à-dire qu'il est en cohésion avec ce qu'il avait dit dans son désaccord avec Rabbi Shimon, fils de Lakish, qu'il considère que le fœtus est une entité indépendante de sa mère. Damar Rabbi Yochanan. En effet, Rabbi Yochanan, il nous a dit, Rabbi Yossé Agelili ou Bet Shammai Amru Davar Echad. Ce qu'a dit Rabbi Yossé dans cette braïta est conforme à ce que dit Bet Shammai, qui dit la même chose dans un autre contexte que l'on va citer. Rabbi Yossé Aglili Adamaran, l'enseignement de Rabbi Yossé Aglili, c'est celui que nous venons de voir. Bet Shammai, en ce qui concerne Bet Shammai, dit Nan, car on a appris dans une Mishnah qui est dans le troisième chapitre de Uksin, Dagim Mehematai Mekablin Touma. Lorsque l'on pêche des poissons et qu'on va les consommer, à partir de quel moment peuvent-ils devenir impurs, sous-entendu en tant qu'aliment? Bet Shammai omrim mishéit sodou. Bet Shammai répondent dès qu'on les a capturés, dès qu'on les a pêchés. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'ils n'ont pas besoin de shrita, dès qu'ils ont été pêchés, ils sont déjà propres à la consommation, d'après la halakha, théorique au moins. Ou Bet Hillel omrim mishéamutu. Tandis que Bet Hillel dit, ils ne sont susceptibles de devenir impurs que lorsqu'ils sont effectivement morts. Et enfin, un cas intermédiaire, c'est Rabbi Akiva qui dit, Rabbi Akiva omer mishaa shein yocholim lichyot. Moment où ces poissons ne pourront plus survivre, ce qui est un moment intermédiaire entre le moment de la capture et le moment où ils meurent effectivement. La Gemara demande Maï Benayou. Nous suivons l'explication de Tosfot qui dit que cette question concerne la différence entre la position de Rabbi Akiva et celle de Beit Shammai. Et on répond, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a répondu, Dag Mekartea Ikabenayu. La différence est un poisson qui s'agite fortement. C'est-à-dire, si le poisson, bien qu'il a été pêché et qu'il est, n'est plus dans l'eau, s'il saute et il s'agite fortement, cependant, d'après Beit Shammai, il est impur, tandis que d'après Rabbi Akiva, il est encore pur. Pourquoi ? Parce que la vigueur de ses soubresauts prouve que si on le remettait dans l'eau, il serait encore capable de survivre. Baï Rafrizda, Rafrizda a posé la question suivante donc concernant les poissons. Noldou Bedagim Simanet Trefamaou. Si un poisson qui a été pêché présente des signes de tréfa, quel va être son statut ? C'est-à-dire que, comme le dit Rashi, la question se pose après Rabbi Akiva qui faisait dépendre la qualité d'aliment du poisson à partir du moment où il n'est plus capable de vivre. Est-ce que nous disons qu'un poisson qui a, comme le donne comme exemple Rashi, un intestin percé, ne peut plus vivre et donc il est déjà considéré comme un aliment et il peut devenir tamé ou non ? La Gemara précise la question. Cette question se pose aussi bien d'après le Tana qui pense qu'un animal, un quadrupède ou un volatile soumis à la shrita, qui a un symptôme de tréfa, peut vivre. La question se pose également d'après celui qui dit qu'il ne peut pas survivre. Voici comment la question doit être comprise, celle de Rav Chisda. D'après celui qui pense qu'un quadrupède ou un oiseau qui a un signe de tréfa peut survivre. Peut-être qu'on peut différencier entre ces animaux et le poisson. Ceci n'est valable que pour ces animaux-là qui ont une grande vitalité, avaldagim de la nefishachiyutayu. Mais pour les poissons qui ont une moins grande vitalité, là, ce principe ne s'appliquerait pas. En effet, les poissons, ils meurent rapidement dès qu'ils sont hors de l'eau, donc ils ont moins de vitalité que ces animaux, et peut-être que chez eux, contrairement aux quadrupèdes et aux oiseaux, la présence d'un tréfa les rend déjà virtuellement morts, et donc d'après Rabbi Akiva, ils seraient immédiatement susceptibles de devenir tamés en tant que tumat ochlim. Odilma, ou alors peut-être, afilu le mande amar tréfa en ahaya, même d'après le Tana qui pense qu'un quadrupède ou un oiseau qui a un siman de tréfa, par exemple les intestins percés ou les autres 18 simanim cités dans l'Agma de l'Outrefot, en ahaya, elle ne peut pas survivre. Une telle affirmation n'existe que par rapport aux animaux pour les espèces desquelles la shrita s'applique, et sous-entendu donc aussi le risque de tréfa. Avaldagim de en beminan shrita. Mais pour les poissons où on ne demande pas dans leur espèce, il n'y a pas lieu d'avoir une shrita. Et Rashi dit, puisqu'il n'y a pas de shrita, il n'y a pas non plus de notion de tréfa. Et s'il y a une tréfa, ils ne sont pas considérés comme morts. Et donc là, on dirait que la présence d'une lésion qui rendrait très fin ne le fait pas considérer comme mort. L'Agma répond, Tekou. Nous abordons maintenant une recherche de l'Agmara concernant les graisses relève, les graisses interdites. Premièrement, il faut savoir que ces graisses ne sont interdites que pour les béhémotes. Le passouk de la Torah qui en parle dans le 23e chapitre de Vayikra, il précise le relève de Shor, de Kesev ou de Ez, c'est-à-dire des bovins, des ovins ou des caprins, des vaches, des moutons et des chèvres, qui s'appellent Behema, sont interdits. Par contre, la graisse identique, enfin correspondante, des animaux appelés Chaya, des animaux sauvages, n'est pas interdite. Le problème qui va se poser, c'est celui d'un Nefel, c'est-à-dire d'un veau ou d'un agneau, etc., donc d'un animal de l'espèce Behema, mais qui n'est pas né dans des conditions normales, il est mort-né, ce qu'on appelle Nefel. Et on va voir qu'il y a une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish pour savoir si il y a une interdiction particulière de sa graisse. Itila Nefel. Voilà donc une femelle des catégories de BMA qui a mis au monde un animal mort-né, un petit mort-né, qui s'appelle Nefel. Et qui évidemment est maintenant à l'ère du jour et on se demande quel est le statut de sa graisse. Alors, il faut dire entre parenthèses que cet animal étant mort sans shrita, il est clair qu'il a le statut de nevela. Simplement, le statut de nevela n'amène pas, même s'il amène une interdiction, l'interdiction de karet. Par contre, si on mange son chélève et qu'on considère que ce chélève, cette graisse, est interdite en tant que telle, eh bien, à ce moment-là, il y aura un chiouf de karet qui est plus grave. Rabbi Yochanan amar chelbo que chélève behema. Rabbi Yochanan dit, sa graisse c'est comme la graisse d'un animal adulte, et donc elle est interdite avec karet. Rabbi Shimon ben Lakish amar, tandis que Rabbi Shimon le fils de Lakish dit, chelbo que chelev chaya. Cette graisse n'est pas plus interdite que celle d'une chaya. Rabbi Yochanan amar chelbo que chelev behema. Rabbi Yochanan dit que sa graisse est comme la graisse d'une behema aviragarim. C'est le fait d'être né, littéralement d'être à l'air, qui entraîne cette interdiction. Et puisque ce néphel est venu à l'air, il est né, même s'il est né mort, le terme de BMA s'applique à lui, et son chélev, sa graisse, est interdite. Rabbi Shimon ben Lakish amar chélbo que chélev chaya. Quant à Rabbi Shimon, le fils de Lakish, qui dit que son chélev, il est comme le chélev d'un animal sauvage, chadashim garmé, il pense que c'est le fait d'être arrivé à terme de son élaboration dans le ventre de sa mère, qui donne le statut de chélev à un animal, à un petit, et étant donné que lui est sorti du ventre de sa mère prématurément, et donc il n'a pas encore les mois normaux de sa grossesse, 9 pour une vache, 5 pour un mouton ou une chèvre, il n'a pas le statut de chélev pour ses graisses. Ikad et Amré, il y a d'autres qui présentent cette discussion différemment. Kolechad lo kalulo chadashav la klum hu. Tant que l'animal mort-né n'est pas encore au terme de ses mois, il n'a pas fini ses mois, c'est-à-dire qu'il est vraiment prématuré, il n'est rien du tout, c'est-à-dire il n'a sûrement pas la qualité de Behema et son relève n'est sûrement pas interdit à titre de karet. Qui pliguait, quand est-ce que se présente la discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon, le fils de Lakish, et Rado Shityado Limehevema, dans le cas où quelqu'un a introduit son bras à l'intérieur de la matrice de la femelle, le talash relève chez le bentish achai. Il a extrait une partie de ses graisses relève d'un petit qui était à l'intérieur du ventre de sa mère, qui avait déjà atteint les 9 mois, qui est vivant. Et achal, et il l'a mangé. Donc c'est un cas théorique bien particulier. Rabbi Yochanan amar chelbo kechelev behema. Et c'est dans ce cas-là que Rabbi Yochanan dit, cette graisse qu'il a extraite de ce petit qui était à l'intérieur du ventre de sa mère, mais dont les mois étaient terminés, qui était à terme, a le même statut de chiouf karet que si c'était un animal adulte. Chodashim garmé, c'est le fait qu'il a le nombre de mois nécessaire qui le qualifie de behema, même avant qu'il soit né. Rabbi Shimon ben Lakish amar chelbo kechelev chaya. Tandis que Rabbi Shimon, le fils de Lakish, il pense que cette graisse est comme la graisse d'un animal sauvage, c'est-à-dire n'est pas interdite en tant que karet. Chodashim va'avira garmé. En effet, il y a 2 facteurs qui sont indispensables pour que cette graisse soit interdite. Il faut que l'animal soit à terme et qu'il soit né. Or, il est à terme, mais il n'est pas né. Retive Rabbi Yochanan à Rabbi Shimon ben Lakish. Objection de Rabbi Yochanan à Rabbi Shimon, le fils de Lakish. Ma chelev ushtek chlayot amurot be'asham mutsa mikelal shelil. De même que l'on trouve concernant un korban que ses graisses relèvent et que ces 2 reins dont on parle à propos d'un korban asham, ils ont été exclus d'être celles qui proviendraient d'un fœtus. Ah, en fait, comme Rachid explique, c'est une telle exclusion découle tout naturellement du fait que le korban hasham dont il est question ne peut être qu'un mâle. Et donc évidemment il ne peut pas avoir dans son ventre en gestation un fœtus. Et donc il est évident que dans le cadre d'un korban hasham on exclut que cette graisse ou que ces reins proviennent d'un fœtus. Eh bien la Gemara dit « Af kol mutsa mikelal shelil ». De même n'importe quel autre cas de korban où effectivement là il pourrait y avoir un animal femelle et qui pourrait comporter un fœtus, eh bien ce verset supplémentaire en quelque sorte vient nous apprendre qu'on exclut de sacrifier la graisse et les relèves et les reins d'un fœtus. Autrement dit, il en ressort, et c'est ce que dit Rabbi Yochanan, Bishlama le Didi, d'après moi c'est bien, puisque je considère qu'un fœtus est au niveau d'une BMA adulte dès qu'il a atteint les 9 mois. Et Aïnou de Exterir Keral et Maoutes, ceci justifie qu'on ait besoin d'un texte supplémentaire dans la Torah pour l'exclure. Et là, les Didar. Mais d'après toi, Rabbi Shimon, fils de Lakish, qui considère que le fœtus n'a pas le statut de BMA, Amai Exterir, qu'avons-nous besoin de ce verset? Amarle. Lakish a répondu, Tama didina mimeacha. Au contraire, mon avis, il vient justement de ce fait. C'est-à-dire que puisque la Torah elle-même a exclu le chélève des fœtus de l'autel, j'en déduis qu'il n'est pas considéré comme du chélève par rapport à l'interdiction. Puisqu'en général, tous les chélèves qui sont interdits à la consommation humaine sont apportés sur l'autel. Et ici, puisqu'il n'est pas souhaité qu'il soit apporté sur l'autel, c'est donc qu'il n'a pas le statut de chélève. Veïka d'Amré, d'autres disent que la question était posée dans le sens inverse. Et Iver Rabbi Shimon ben Lakish de Rabbi Yochanan. Objection faite par Rabbi Shimon le fils de Lakish Rabbi Yochanan. Ma chélève ushte chélayot ha'amorot be'asham mutsa mikelal shelil. De même que lorsqu'on parle de graisse et de deux reins concernant un sacrifice de la catégorie Hacham, obligatoirement cela exclut qu'il puisse s'agir d'un fœtus, af kol mutsa mikelal shelil. De même, n'importe quel autre sacrifice, on ne peut pas envisager d'offrir sur l'autel le chélève, la graisse ou les reins du fœtus. Bish la maledédi, ceci va bien après moi, Rabbi Shimon, fils de Lakish, Mishumachim Yater Achamana. C'est pour cette raison que Akadosh Baruch Hu l'a exclu de l'autel, sous-entendu parce que le chélève d'un fœtus qui n'est pas encore venu au monde ne rentre pas dans la catégorie interdite qui lui donne la qualification de chélève. Et là, le Didach, mais d'après toi, Rabbi Yochanan, l'Ikarev, pourquoi est-ce que, logiquement, la Torah n'aurait pas souhaité qu'une telle graisse, même provenant d'un fœtus, si sa mère est un corban femelle dans une catégorie autre que le Hacham, pourquoi cette graisse ne serait pas amenée ? Amarle, et là-dessus, Rabbi Yochanan, lui, a répondu, Midé d'Ave Amechusazman, c'est par analogie avec le cas d'un animal qui est déjà né mais qui n'a pas encore atteint le temps. C'est-à-dire que dans la Torah, il est marqué dans le 22e chapitre de Vayikra, dans le passage 27, Shor o chesevo est ivaled, bon, peu importe le verset, mais la Torah dit que lorsque naîtra un petit veau ou un petit mouton, une petite chèvre, il faut attendre 8 jours avant qu'il soit raoui, avant qu'il soit capable et digne d'être amené sur l'autel. Donc il existe une notion dans les sacrifices d'une chose qui est prématurée. Alors si déjà l'animal naît, il faut attendre 8 jours, a fortiori qu'on ne peut pas accepter d'amener à titre de corban une partie d'un fœtus qui n'est pas né du tout. Amar Rabbi Ami. Rabbi Ami a dit, Ashochet et Aterefa Matsava ben Tishachai. Celui qui a fait la shrita d'une femelle qui avait l'un des signes de Tarefa, une lésion qui est dans la liste des 18 tréfautes, et il a trouvé à l'intérieur de son utérus un petit qui a déjà terminé sa grossesse, donc il a 9 mois, le divré à Oser, littéralement, d'après celui qui interdit, matir, il est permis. Rashi explique, qu'entend-on par le divré à Oser, d'après le Tana qui interdit de consommer un fœtus de 9 mois vivant trouvé à l'intérieur de l'utérus de sa mère cachère et non tréfa, tant qu'on ne lui a pas fait la shrita, c'est-à-dire d'après Rabbi Meir, lui par contre il permet ce fœtus à la consommation parce que malgré le fait que la mère était tréfa, la shrita de sa mère autorise le fœtus à la consommation parce qu'il est une entité distincte. Le divré à Matir, tandis que d'après l'opinion de celui qui permet, en l'occurrence Rabbi Yehuda, c'est-à-dire qui permet de consommer un fœtus de 9 mois vivant qui a été trouvé dans le ventre de sa mère, qui est permise et qui n'a pas de lésion, il dit donc que l'enfant aussi est cachère, le fœtus, parce que la shrita de sa mère lui sert. Au serre, là dans ce cas où la mère était très fin, il interdit le fœtus, tout simplement parce que la shrita de la mère n'a pas le pouvoir de rendre consommable alachiquement la viande de sa mère, et il n'a pas non plus de pouvoir supplémentaire vis-à-vis de ce fœtus, puisque d'après Rabbi Yehuda, il est considéré comme une partie intégrante de la mère. Précisons qu'en outre, d'après cette opinion, le fœtus étant considéré comme partie intégrante de sa mère, même sa propre shrita ne servira à rien, puisque finalement, il a, par filiation, la qualité de terefa, semble-t-il. Par contre, Rava, il a un avis différent. Rava Amar le divrei Matir Nami Moutar. D'après celui qui permettait, c'est-à-dire d'après Rabbi Yehuda, ce Ce veau sera également autorisé. Pourquoi? Il dit Arba'a Simanin Archarbe Rachamana. Akadosh Baruch Hu a rendu valable 4 conduits vitaux, c'est-à-dire qu'en fait il y a 2 fois 2. Ou bien il y a ceux de la mer, mais ici dans notre occurrence, ceux de la mer ne pourront pas servir, puisque la mer étant tréfa, la shrita des 2 simanim de la mer n'a pas l'effet de rendre autorisé ni sa propre chair, ni celle du fœtus. Par contre, d'après Rava, il pense que Rabbi Yehuda autorisera de consommer de ce veau né d'une mère qui était très fin, à condition de lui faire à lui-même la shrita. Amar Afrizda. Afrizda a dit à ce...
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous avons ainsi terminé le Hamoud Aleph, c'est-à-dire la première page du Daf Ayinhed, et nous tournons la page. Et bien, d'après Rav Chisda, Taoun Shechita, il faut lui faire la Shechita. Sous-entendu, on ne peut pas le manger sans Shechita, mais une fois qu'on lui fait la Shechita, on pourra le consommer. C'est marqué Vakeva. On est tenu, après avoir fait la shrita, de donner au Kohanim, comme pour n'importe quel autre animal que l'on sacrifie, même s'il n'est pas un korban, de donner donc au Kohen Zeroa l'épaule, Valechayaim les 2 joues, Vakeva et sa panse, Veimet, et si ce veau est mort, sous-entendu sans shrita, Tahor miletamme bemasa, il est pur par rapport à l'impureté qui existe lorsqu'on le porte, impureté qui n'est appliquée qu'à un animal qui est nevela. Et donc on ne le considère pas comme nevela. Amar le Rabba, Rabba a demandé à Rav Chisda, Taoun Shrita, lorsque tu dis qu'il est exigé de lui faire la Shrita, sous-entendu pour avoir le droit d'en consommer, que man, comme qui raisonnes-tu? Que Rabbi Meir, comme Rabbi Meir. Et lorsque tu dis que s'il est mort de mort naturelle sans shrita, il n'est pas sujet à l'impureté que l'on peut obtenir, que l'on peut recevoir en le portant, que man, comme qui le dis-tu? Que Rabbanan. Ceci va d'après l'opinion des Chachamim, qui considèrent que la shrita de la mère est efficace pour un fœtus, à condition qu'il soit arrivé à terme des 9 mois. Donc il y a apparemment une contradiction interne dans tes propos. Rav Chisda lui a répliqué Velita Amer. Et d'après toi, Hadetani Rabbi Chia, une braïta qui a été enseignée par Rabbi Chia et qui dit la chose suivante. Ashochet et Aterefa Umatsava Ben Tish Achai. Donc c'est le même contexte. On fait la shrita d'une femelle qui a dans son ventre un petit qui est au terme des 9 mois et qui est vivant. Taoun Shechita, pour pouvoir consommer de ce veau une fois qu'il est né, donc on l'a sorti du ventre de la mère à qui on avait fait la shrita, il faudra faire la shrita au veau. La même chose que je dis, il faut donner au Kohen l'épaule, les joues et la panse. Veimet, et si ce veau est mort après la shrita de sa mère et après avoir vécu un certain moment, mort de mort naturelle, tahor milletame vemasa, il n'a pas l'impureté liée au fait de le porter. Même chose, Taun Shrita Keman, si on exige la Shrita, comme qui cela va-t-il, comme Rabbi Meir, Bimet Taor Miletame Memasa, mais tu dis, enfin on dit dans cette Braïta de Rabbi Chia, s'il est mort de mort naturelle, il est pur par rapport à l'impureté liée au fait de le porter, que Rabbanan, ça va que Rabbanan. Alors comment est-ce que tu t'en tires? Rabba dit à Alokashia, ceci n'est pas difficile par rapport à Rabbi Chia. Pourquoi? Rabbi Chia. Rabbi Chia dit la chose suivante, Imkvar Metsaomet Kamar, il parle du cas où ce fœtus qu'il avait trouvé dans le ventre de sa mère, il parle que lorsqu'il parle de la Touma, il ne parle pas du cas où il a été sorti vivant et qu'il est mort ensuite, mais lorsqu'il dit Veimet Taor Miletame, s'il était mort, c'est-à-dire si dans le cas où on a ouvert le ventre de la mère, on a trouvé ce fœtus déjà mort. Et là, le Didar, mais d'après toi, qui a clairement laissé entendre que la règle s'applique s'il est mort après avoir vécu un certain moment, Kashia, il y a une contradiction. En effet, si tu dis que lorsqu'il meurt de mort naturelle, il n'a pas de Tumat Nevela, il n'a pas de Tumat Massa dû au caractère de Nevela. C'est que tu penses que la Shrita de la mère est efficace sur ce plan-là. Or, parallèlement, tu me dis également que on peut le rendre autorisé à la consommation en lui faisant la Shrita lui-même. Et là-dessus, il répond, Rav Chisda, Marley, il lui a répondu, il a dit, Dinamin Akashia, même pour moi, il n'y a pas de contradiction. Arba'a, Simanim, Arshar, Berachamana. Akadosh Baruch Hu a validé pour lui 4 conduits vitaux. Autrement dit, il est vrai que la Shrita de sa mère est suffisante pour lui enlever le caractère de Nevela, même si elle ne suffit pas à l'autoriser à la consommation, puisque la mère est en tréfa. La Shrita de la mère ne peut pas être valable davantage pour le fœtus que pour la mère elle-même. Mais d'un autre côté, lorsqu'il sort vivant, il y a encore une option de le rendre kasher, c'est-à-dire de le consommer sans aucun problème, sous réserve de lui faire la Shrita de ses propres simanim. C'est cela qu'on entend en disant que HaKadosh Baruch Hu a autorisé 4 simanim pour ce veau. Et on nous raconte l'histoire suivante, qui s'allie Rabbi Zera. Lorsque Rabbi Zera est allé en Israël, Askecher Rabbi Hassid et Yativ, Rabbi Hassid l'a rencontré, qui était à la Yeshiva, avec Amarle l'Hashmata, et il dispensait cet enseignement de Rav Chisda. Amarle, Rabbi Hassid lui a dit, Yishar, tu as raison, Renama Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan pense comme toi. Michlal de Paligale Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Zera lui a dit, puisque tu dis ça au nom de Rabbi Yochanan, veux-tu impliquer que Rabbi Shimon, le fils de Lakish, est en désaccord? Et Rav Hassid lui répond, Misha ave Shaele. Resh Lakish, en général, il attendait que Rabbi Yochanan termine ses exposés. Le Chatiklé. Et souvent, il était silencieux après. Et ici aussi, il a été silencieux. Et d'après ce qu'expliquent les commentaires, Rabbi Hassid avait quitté ensuite le Beth Amidrash. Donc, il ne savait pas ce qui s'était passé. Il était incapable de répondre si Resh Lakish était d'accord ou en désaccord. Vika Damre, il y a une autre version de cette histoire, dans lequel Rabbi Hassid aurait répondu, Mishta Veshate, Resh Lakish était en train de boire pendant que Rabbi Yochanan parlait, Veshatikle, et pour cela il n'a pas pu rétorquer puisqu'il avait été occupé à boire, et donc je ne sais pas quelle était son attitude. Nous revenons maintenant à la Mishnah, et nous citons le troisième cas qui était présenté par la Mishnah, Rabbi Shimon Sezuri Omer, Afilou, etc. Autrement dit, je rappelle brièvement que Rabbi Shimon Sezuri disait que même si on a trouvé ce fœtus vivant dans le ventre de sa mère, et qu'ensuite il est grandi à l'extérieur, qu'il a 5 ans, qu'il est en train de tirer la charrue, il a été rendu d'ores et déjà rétroactivement kasher par la shrita de sa mère, et on pourrait donc, d'après Rabbi Shimon Sezuri, lui vider le sang de n'importe quelle manière et le consommer sans autre shrita. La Gemara s'étonne, Haïnu Tanakama. L'opinion de Rav Shimon Sezuri revient à celle du premier Tana. Amar Rav Kana a répliqué, il frise Al-Gabé Karka et Kabenayou. La différence entre l'opinion de Tanakama et celle de Rav Shimon Sezuri, c'est dans le cas où ce Ben Pakua, il a placé ses sabots sur le sol. D'après Tanakama, on ne peut le consommer, si on le tue sans shrita, qu'avant qu'il ait posé ses sabots sur le sol. D'après Rav Shimon Sezuri, quand bien même il a posé sa bosse au sol, donc il est devenu complètement autonome, la shrita de sa mère reste valide pour lui, quel que soit son âge. Amar Rav Mesharchia, Rav Mesharchia, il dit, le divrei Omer Choshechin Lezerav, d'après l'opinion rachidique, c'est de Hanania, qui dit que l'on tient compte des gènes, de l'ascendance du père chez les animaux, Ben Pakua Abba Alabem Amaliata, si on a un mâle, Ben Pakua, donc, qui avait été extrait du ventre de sa mère après la shrita, qui ayant grandi se croise avec une femelle normale, avala denotakana. Le produit de ce croisement, donc un veau qui naîtrait de cet accouplement, ne pourra pas être consommé. En effet, comme l'explique Rashi, je simplifie un peu parce que il y a entre Rashi et Tosfot des vues divergentes, du côté de son père dont on tient compte, qui était un ben pakua, il n'a pas besoin de shrita, donc c'est comme si l'un de ses tuyaux vitaux manquait. Du côté de sa mère, il en a besoin, donc c'est un peu comme si il n'avait qu'un tuyau vital, ou d'après Tosfot, comme si chacun des deux tuyaux vitaux avait déjà été partiellement soumis à la shrita, et donc il n'y a aucun moyen de faire la shrita. Rashi explique qu'on ne peut pas faire la shrita à un veau qui n'a qu'un seul tuyau vital, l'autre étant déjà considéré comme sectionné du fait de l'ascendance Benpakwa du père. Notons en passant que le Taz dans le Yoredea dit que la même halakha d'impossibilité de rendre kasher le veau s'appliquerait si c'était la situation d'accouplement inverse, à savoir le père qui est un taureau ordinaire qui s'accouplerait avec une femelle, une vache, qui elle serait Batpakwa, qui serait née avec la shrita de sa mère en ayant été trouvée dans le ventre de celle-ci après la shrita au terme de 9 mois. Revenons-en à la discussion de notre Mishnah, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la différence entre Tanakama et Rabbi Shimon de Fezouri. Amar Abaye. Abaye, il a dit la chose suivante. Akol modim bekalut ben pakua. Tout le monde est d'accord que si un ben pakua est né et qu'il a les sabots unis, alors que bien entendu il provient d'une mère et d'un père qui sont des animaux cachers qui ont les sabots fendus, mais lui il a deux particularités simultanément. D'abord il est ben pakua, il est né post-shrita de sa mère alors qu'il était à terme, et deuxièmement il a les sabots unifiés chez Moutard. Dans ce cas-là, on a le droit de le manger même sans shrita. Maïtama. Pour quelle raison? Et comme le dit Rashi, ceci va là même s'il a déjà placé ses 4 sabots, puisqu'il n'en a que 4 et pas 8, sur le sol. Kol milta ditmia. Tout cas qui est stupéfiant. Mitkar de chirela inche. Les gens s'en rappelleront. Il faut expliquer cela. C'est que normalement, pour un ben pakua, bien que d'après la Torah, on n'a pas besoin de faire la shrita, les chachamim exigent quand même une shrita, parce que les gens risquent de penser que l'on peut consommer de la chair d'un animal, n'importe lequel, sans shrita. Mais ici, le cas est tellement exceptionnel que tout le monde se rappellera du fait qu'il a également eu des sabots unifiés, qu'il était un ben pakua, et personne n'en viendra à extrapoler dans le cas normal. Ika de Amré, il y en a d'autres qui rapportent la halakha de Abaye différemment. Amar Abaye, Abaye a dit, Akol modim mekalut ben kluta ben pakua. Tout le monde est d'accord que si naît un veau qui a les sabots unifiés, dont la mère elle-même était une femelle, une vache, qui avait les sabots unifiés, ben kluta, et qui lui-même est ben pakua, qu'il est né dans le ventre de sa mère après la shrita, enfin vous comprenez ce que ben pakua est maintenant, chez Mouta, qu'on a le droit de le consommer sans shrita, même s'il a déjà marché, maitama, pour quelle raison? Très temmié, mitkar de chire inche. Deux choses stupéfiantes, les gens s'en souviennent. Amar Zehiri Amar Rabbi Hanina. Zehiri a enseigné au nom de Rabbi Hanina. Alacha que Rabbi Shimon Shezuri. La halacha est conforme à l'opinion, qui est l'opinion la plus allégée, celle de Rabbi Shimon Shezuri. Renaï Rabbi Shimon Shezuri, matir, bivno, uven beno atzov koladorot. Et de plus, Rabbi Shimon Shezuri, l'autorisation qu'il donne de consommer le ben pakua sans shrita, elle s'étend par récurrence à son fils, à son petit-fils, jusqu'à la fin des générations. Tous ces veaux peuvent être consommés sans shrita, sous-entendu, bien entendu, que le père et la mère sont tous les deux des ben pakua. Par contre, Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il a dit, ou mutar, le ben pakua lui-même il est permis, sous-entendu, sans shrita, ou veno asur, mais s'il a un petit, le petit ne sera pas autorisé. Adab Achabu Avala Ben Pakua. Il y avait un nommé Ada, fils de Chabu, qui détenait un veau Ben Pakua. De Nafal Duba Ale. Un ours est tombé sur lui, il l'avait blessé. D'autres disent, c'est le cas de Rashi, qu'il s'agissait d'un loup qu'il avait attaqué. Et alors, comme il avait un problème avec cet animal, Ata le Kamed Ravashi, il est venu poser la question de savoir si on pouvait le consommer à Ravashi. À Marlès, il chartait. Ravashi lui a dit, va, mais opère-lui la shrita. À Marley, Ada lui a dit, Ha Amar Zehiri, Amar Rabbi Hanina, Alachak Rabbi Shimon Shezuri. Mais pourtant, Zehiri a rapporté au nom de Rabbi Hanina qu'on tranchait la loi suivant l'opinion de Rabbi Shimon Shezuri. Renaï Rabbi Shimon Shezuri m'attire. Or, Rabbi Shimon Shezuri l'autorisait, le Ben Pakwa lui-même, Beno, son fils, ou Ben Beno, et le petit-fils Atsov Koladorot, jusqu'à la fin des générations, sans shrita. Va filou Rabbi Yochanan, même Rabbi Yochanan qui n'est pas d'accord, la Kamar et la Beno, il ne s'oppose à la consommation sans shrita que du fils du Ben Pakwa, Avaliou, et le Ben Pakwa lui-même, là, il le permet. Ah, c'est-à-dire, non, il n'interdit pas. Amar les Ravashi a répondu, Rabbi Yochanan, le dit vrai Rabbi Shimon Sezurikamar. Rabbi Yochanan lui-même, quand il a dit cela, il n'a pas dit cela d'après son avis personnel, mais d'après la manière de penser de Rabbi Shimon Sezuri. Mais il ne voulait pas dire que la halakha est comme lui. Ve'amar Ravin, bar Chanina, Amaroula, Amar Rabbi Chanina, halakha que Rabbi Shimon Sezuri. Mais pourtant, Rabin, le fils de Chanina, a rapporté au nom de Oula, qui lui-même citait Rabbi Chanina, que la halakha est comme Rabbi Shimon Sezuri. Velod. Et plus encore. Et la colma comme chez Chanou, Rabbi Shimon Sezuri, Beishatenu. Nous savons, par principe général, que chaque fois que Rabbi Shimon Sezuri a enseigné dans notre Mishnah, halakha kemoto, on suit son opinion. Amarle. Ravashi lui a répondu. Anna, moi personnellement, qui has virali, je pense comme ce texte d'Amar Rabbi Yonatan, qui a été enseigné par Rabbi Yonatan, halakha que Rabbi Shimon Sezuri, bimsukan. Quand est-ce que nous suivons l'opinion de Rabbi Shimon Sezuri dans la halakha, dans le cas d'un homme qui est dangereusement malade, c'est un certain cas, ou bitrumat maaser shel demai, et concernant le problème de savoir ce que l'on peut faire avec la trouma qui a été prise pour le Kohen dans le Maaser qu'a retiré le Lévi d'une récolte d'Eretz Israël qui est douteuse, qu'on appelle Demaï, dont on va parler. Et la Gemara va expliquer de quoi il s'agit. Mesoukan, le cas d'un homme qui est en danger, c'est-à-dire qui risque de mourir bientôt. Ditnan, c'est ce qui a été enseigné dans une Mishnah qui se trouve dans la Maseret Gittin d'Av Samerhe, qui dit la chose suivante. Marishona ayu omrim. Au début, les Chachamim disaient Ayotse bakolar, celui qui sort, qui est enchaîné et qui est en train d'aller au poteau d'exécution, que des autorités non juives ont condamné à mort. Ve'amar, et il dit Kitvuget lishti, écrivez un acte de divorce pour ma femme. Et sous-entendu, il a omis de dire de le lui remettre. Are elu yirtevu vitnu. Ceux qui l'ont entendu sont autorisés à l'écrire et à le remettre à sa femme. C'était un premier enseignement. Chazrou l'omar. Puis les sages ont étendu cette autorisation et ils ont dit « Af, ceci s'applique également à Mefaresh, celui qui part pour un voyage lointain sur les mers, Vayotse Beshayara, ou celui qui va suivre une caravane pour traverser le désert. Eux également, s'ils ont dit dans la précipitation du départ « Kitvu get lishti, écrivez un get à ma femme sans dire de le donner », les Chachamim autorisent les gens qui l'ont entendu d'écrire et de donner cet acte de divorce à sa femme. C'est l'opinion des Rachamim, Rabbi Shimon Sezuri Omer, Afam Soukan. Là-dessus arrive Rabbi Shimon Sezuri et qui dit la même loi s'applique également à un homme qui est en danger de mourir. On n'exige pas qu'il ait dit quitte-vous ou tenez-vous, écrivez et donnez, mais il suffit qu'il ait dit quitte-vous, écrivez. Terumat Maaser Shel Demai, le cas de la Teruma qui a été prélevée pour le Kohen à partir du Maaser qui revient au Lévi, provenant d'une récolte d'Israël qui est douteuse. Ditnan, car on a appris dans une Mishnah de Demai, dans le Perek 4, la première Mishnah, Terumat Maaser Shel Demai chez Chazra Limkoma. Si de la Teruma provenant du Maaser d'une récolte douteuse, c'est-à-dire dont on ne sait pas si oui ou non, on a prélevé les Maasrot. Et si elle est revenue à sa place, c'est-à-dire qu'elle s'est remélangée avec le gros de la récolte dont elle avait été séparée. Rabbi Shimon Sezuri Omer, Rabbi Shimon Sezuri, il dit, Av Bechol, même si c'est la semaine où on n'a pas de problème particulier et où il n'y a pas besoin de faire des allègements spéciaux comme c'est le cas le Shabbat, Rabbi Shimon Sezuri dit, Shoalo Veochlo Alpiv. Les Chachamim lui ont permis d'interroger le propriétaire initial de la récolte, ce qu'on appelle un Amaharetz, celui qui n'est pas très, très crédible, en tout cas lorsqu'on ne l'a pas interrogé, et même lorsqu'on l'interroge, on ne croit pas toujours pour savoir s'il a prélevé les Maasrot. Et bien dans ce cas particulier, il pourra interroger cet Amaharetz en lui demandant « As-tu pris la dîme de la récolte que tu m'as vendue ?» Et si ce Amaharetz lui répond qu'il l'a prise, il a le droit de manger en se fiant à sa parole. Ochlo alpi, donc il peut le manger sur la foi de cette personne. C'est donc une kula qu'a fait Rabbi Shimon Sezuri. Et avec ce propos, nous avons terminé le daf Ayinhe Amud Bet. Donc nous passons au daf Ayinvav, c'est-à-dire à une nouvelle Mishnah.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.